Écoutez les spectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Les spectateurs,
les sociaux, les frères, les frères.
Allez, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
La presse multiplie ses portraits, elle enchaîne les plateaux télé. À 24 ans, Eugénie Bastier publie son premier livre, Attaque en règle, de ce qu'elle nomme le néo-féminisme, une lutte abâtardie par l'idéologie. Elle se dit conservatrice, catholique, anti-libérale, anti-mariage gay. Retour sur une émergence médiatique accélérée, symptomatique de notre époque. Eugénie Bastier combine la force de frappe du Figaro.fr, où elle est journaliste, et les réseaux sociaux dont elle maîtrise les codes à la perfection. Bref, la vieille française. France venue du web. Bonjour Eugénie Bastier.
Bonjour.
Vieille France, ça vous plaît pas du tout, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui. Mais on va en reparler si vous voulez. Adieu Mademoiselle paraît aux éditions du Cerf. On va d'abord jeter un œil sur la trépidante actu de la télévision en ce moment. Et puis j'ai demandé à Xavier Delaporte de rue 89, bonjour Xavier.
Bonjour Sonia.
De se pencher sur la stratégie du Figaro Vox, les pages débat et opinion du Figaro, version droite décomplexée et puis surtout version numérique.
L'instant M. L'actualité des médias sur France Inter.
Ça y est, Vincent Mellet, le directeur de France 2, a fait son choix. Il s'en explique dans les colonnes de Télérama, en tout cas sur Télérama.fr. Il confie sa nouvelle émission culturelle à Léa Salamé, par ailleurs intervieweuse politique dans le futur magazine du jeudi, aux côtés de David Pujadas. Ça fait donc deux visages pour Léa Salamé, la culture et la politique. L'après-midi, toujours trois nouvelles émissions pour Sophie Davant, Frédéric Lopez et Thomas Touroud, qui est un nouveau venu sur France Télévisions. Il arrive de Canal+, et qui va mêler actu et humour. À 17 ou 18 heures. Amanda Scott tentera de rafraîchir le divertissement, Stéphane Bern rempile côté histoire et patrimoine, mais on ne sait ni où ni comment. Enfin, la chaîne planche sur une émission quotidienne de faits divers et devrait peut-être, ça c'est nous qui vous l'ajoutons, supprimer à la rentrée, faites entrer l'accusé. Alors, le Figaro Vox, 5 millions de pages vues par mois, c'est le bébé numérique des pages traditionnelles débats et opinions du Figaro, hein, qui existe depuis fort longue date. Elles sont dirigées par Vincent Trémollet de Villers, auteur d'un ouvrage notamment, hein, consacré à la manif pour tous. 7 contenus par jour, à peu près, c'est très prolifique, très actif. Des plumes qui signent également dans Valeurs Actuelles ou sur un site qui s'appelle Boulevard Voltaire. Alors, Xavier Delaporte, vous avez décidé de repartir de loin. Hein, à la fin du 19e siècle, le sociologue Gabriel Tarde essaie de comprendre comment se fabriquaient les opinions.
Oui, et pour ce faire, Tarde a cherché à comprendre les rapports entre l'opinion, l'information et la conversation. C'est-à-dire comment les gens s'informent, comment ils discutent de l'information et comment ils se font une opinion. Et Tarde a dit des choses très belles et très justes. Il a dit par exemple que la presse écrite, qui prenait donc son plein essor à l'époque où il parlait, fournissait le menu de la conversation. Le menu de la conversation, essentiel donc à la fabrique des opinions. Alors aujourd'hui, on sait, la conversation n'a plus seulement lieu dans les restaurants, les cafés ou dans les salons, elle a aussi lieu sur Internet et dans les réseaux sociaux. La presse peut utiliser Internet et les réseaux sociaux de manière assez élémentaire pour continuer à donner le menu de la conversation, mais il lui est donné occasion de faire plus en épousant les formes que la conversation prend sur Internet et dans ces mêmes réseaux sociaux. Elle peut intervenir plus directement, elle peut participer plus encore qu'elle ne le faisait auparavant, et c'est sans doute ce qu'ont compris les dirigeants du Figaro et Alexis Brézet en particulier en créant début 2014 le Figaro Vox. Jusque-là, la présence du numérique du Figaro s'limitait au Figaro.fr, ouais. Sage déclinaison hein, numérique du support papier. Créer le Figaro Vox, c'était créer un espace qui non seulement place le Figaro beaucoup plus à droite, mais surtout épouse les contours de la conversation numérique et en exploite presque à la perfection les travers.
C'est-à-dire ?
C'est ce que racontaient très bien Nolwenn Leblevenec et Ramsès Kéfi dans le papier de rue 89. Le Figaro Vox, c'est la création d'un espace qui émet des avis tranchés. Mm-hmm. Des avis qui désignent immédiatement leurs adversaires. Ça, les adversaires, c'est la gauche, les syndicalistes, les bobos, etc. Des avis qui se passent des nuances, qui sont aisément résumables ou doté de suffisamment de punchlines pour vivre une vie épanouie dans les réseaux.
La punchline, c'est la phrase choc. Quoi.
C'est la phrase choc, ouais. C'est ce qui marche bien en 140 caractères notamment. Et puis surtout, un espace qui émet des avis personnalisés. Et en ce sens même, le nom du Figaro Vox est symptomatique. Il s'agit de faire entendre des voix et de donner de la voix. D'où le recours pour émettre ces avis, soit à des experts ou pseudo-experts qui vont livrer une forme d'entretien éditorialisé qui en général va dans un seul sens.
Alors des experts, il y en a, il y a des grandes plumes aussi.
Oui, experts, il y a tout. Et quand je dis qu'ils vont dans un seul sens, ils ne vont pas toujours dans le même sens, mais l'entretien va dans un seul sens. Soit à des personnalités qui sont d'ores et déjà identifiées, l'essayiste Pascal Bruckner, l'historien très souverainiste Jacques Sapir ou le journaliste André Bercoff, qui n'ont pas attendu, eux, Internet pour exister, et qui vont donc livrer des sortes de tribunes ou éditoriaux qui vont aussi dans un seul sens. Sans avoir recours, sans oublier d'ailleurs qu'ils ont aussi recours, et ça c'est peut-être plus nouveau, à des jeunes journalistes, des personnalités qui acquièrent une existence dans les réseaux, comme votre invité ce matin, Eugénie Bastier, qui vont aller au combat dans ces lieux conversationnels particuliers que sont Twitter et Facebook par exemple, et avec les armes qu'il faut savoir manier si l'on veut combattre dans ces lieux. Inutile de préciser qu'on peut faire autre chose dans ces lieux que de combattre, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça est hyper efficace. Ça attire l'attention dans les réseaux, ça attire l'attention sur le Figaro.fr. Alors dire que ça hausse le niveau du débat public, j'irai pas jusque-là, mais de toute façon, ça n'est pas le but. Il s'agit de vous crier le menu dans les oreilles et vous dire quel plat il faut commander.
Eugénie Bastier, donc avant d'être journaliste au Figaro.fr, vous avez fait vos armes à Figaro Vox, où vous étiez stagiaire, c'est ça ?
Oui. Le Figaro Vox a été créé aussi pour être un espace de débat et de pluralisme. Et c'est vrai que vous disiez, il y a des gens qui travaillent à Valeurs Actuelles, à Boulevard Voltaire, mais il y a aussi Jacques Julliard qui travaille pour Marianne, et Jacques Sapir qui est de gauche, Coralie Delhomme, voilà, plein des souverainistes de gauche. Moi, je me souviens que la plus belle interview que j'ai faite quand j'étais au Figaro Vox, c'était celle de Jean-Pierre Chevènement. Voilà, donc il y a
souverainiste.
Oui, mais il y a aussi des libéraux, des européens, enfin. L'idée, c'était de faire parler, je pense que l'idée, c'était de faire parler toutes les droites, la droite antilibérale, la droite souverainiste, la droite gaulliste et la droite centriste. Après, il y a aussi une ouverture vers la gauche, on va dire souverainiste. Républicaine.
Ça reste tout ça mais, quand même dans un certain...
Mais oui, mais bon, le Figaro, c'est pas France Inter.
Non, le Figaro, c'est pas France Inter. Vous prenez les pages débat et opinion du Monde. Pour le coup, la droite et la gauche s'expriment...
Je sais pas s'il y a plus de pluralisme dans les pages opinion et débats du Monde.
C'est une bonne question, on y reviendra. Alors vous êtes en effet de cette génération extrêmement active sur Twitter, Eugénie Bastier. Il y a d'abord quelque chose qui m'a frappée, vous répondez à tout le monde. D'autres signatures du Figaro, hein, Yvan Rioufol par exemple, qui peut être très virulent mais qui bloque ses contradicteurs. Vous discutez.
Oui, j'ai un peu ce gros défaut, j'essaie toujours de convaincre mon adversaire, parfois en vain, mais c'est vrai que parfois je suis indignée par la mauvaise foi, ou quand on m'insulte, et du coup j'ai envie de répondre, envie de convaincre l'autre. Ça marche pas toujours, hein. Parfois je finis par bloquer aussi.
Alors, autre signe des temps, vous maniez extrêmement fréquemment l'ironie et la dérision. On a l'impression, en même temps, parce que vous menez des combats qui sont quand même là aussi, qui peuvent être très virulents ou très graves ou très profonds, et en même temps que tout est bon pour la dérision. Vous tweetez, vu dans une librairie, le pape François entre Laurent Baffy et Marc Lévy, hashtag où est passé le respect. Vous tweetez, quand tu apprends que Klein a pris un crédit Sovinco pour acheter du matos pour Daesh, au lendemain de Charlie Hebdo avec un gif. Vous tweetez idée cadeau pour les juifs de Marseille avec un truc, la kippa magique évidemment, ouais. Qui est très rigolo. Vous tweetez attentat de Paris, âgé de 15 ans, le petit frère d'Abaoud veut venger sa mort, et vous tweetez passe ton bac d'abord. C'est ça ?
Enfin, Twitter, c'est quand même pas l'endroit privilégié pour faire du débat véritablement de fond. On peut tweeter des liens. Après, c'est vrai que c'est quand même un endroit où on peut manier un peu l'ironie, faire des blagues sur l'actualité. C'est un peu aussi l'objectif de Twitter, et c'est vrai que c'est tentant de faire des petites...
Et que les deux se mêlent. Est-ce que vous diriez que vous êtes la génération Nabila, Eugénie Bastier ? Oula. Je sais que je vais vous faire bondir. En même temps, vous avez le même âge.
Je sais pas si c'est un compliment. J'espère quand même être... légèrement plus profond.
Plus maligne et plus... d'accord, vous venez pas du tout du même milieu et vous n'avez pas les mêmes personnalités.
Moi, les réseaux sociaux, je les utilise comme un outil pour faire passer certaines idées, pour débattre, pour plaisanter. Après, je pense que c'est quand même... se limiter à ça, c'est très dangereux. Hein. J'essaie quand même d'avoir de lire à côté des choses qui dépassent 50 signes, parce que c'est quand même pour se nourrir...
De lire et d'écrire. Hein.
Pour se nourrir intellectuellement, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre aussi, pour pas...
Être
pas qu'on limite ma pensée à des tweets en 140 caractères et que voilà, montrer que j'étais capable de d'écrire des choses de fond.
Alors sur Twitter toujours, et puis après on va y venir, hein, à ce que vous écrivez en un peu plus long que 140 caractères, les observateurs notent que les influenceurs d'extrême droite vous retweetent constamment. Et vous, vous écrivez sur Twitter toujours que vous avez rien à voir avec ces gens-là. Je vous cite, les gens qui vous retweetent ne sont pas forcément vos amis, c'est grotesque. Peut-être qu'on peut demander à Xavier Delaporte si le retweet, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un retweet et est-ce que c'est une forme d'adhésion sur les réseaux sociaux ?
Le retweet, c'est le fait de relancer dans Twitter quelque chose que, d'un contenu de quelqu'un qu'on a suivi. Donc déjà, ça veut dire qu'ils vous suivent, que ce, ce que vous dites les intéresse. Bon, à la limite, pourquoi pas. Une forme d'adhésion, je pense que c'est compliqué. En fait, c'est polysémique, le retweet. C'est-à-dire que vous pouvez retweeter pour ironiser, vous pouvez retweeter pour... Mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est que vous redonnez de l'audience. C'est que vous savez que quand vous remettez dans Twitter, vous redonnez de l'audience et vous ouvrez à d'autres cercles. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent à l'encan de leurs propres cercles, qui sont donc les cercles de l'extrême droite, vos idées.
Oui, mais moi, je ne supporte pas cette idée selon laquelle, parce que quelqu'un d'extrême droite aurait les mêmes idées que vous sur un sujet, vous seriez forcément d'extrême droite et vous feriez le jeu du Front National, entre guillemets. Non, moi, je dis des choses, elles sont vraies ou elles sont fausses. Certains y adhèrent, certains n'y adhèrent pas. Je me fiche que les gens qui me retweetent ou qui me suivent soient d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite. Vraiment, pour moi, c'est pas important. Je suis complètement libre par rapport à ça et j'hésiterai pas à me fâcher avec des gens qui me suivent, qui vont me trouver qu'un jour je vais pas dans leur sens. Et souvent, ils sont déstabilisés parce que je prends des positions.
Et est-ce que justement vous n'êtes pas, je reviens sur ce que vient de dire Xavier, le pont parfait justement entre tous ces sujets qui sont chéris par une frange de l'extrême droite, qui sont en effet variés et très différents. Et est-ce que vous seriez pas le pont parfait entre le web, les blogs, les réseaux sociaux et puis un média institutionnel qui est le Figaro où vous publiez par exemple des papiers sur l'Action française. Donc finalement une formidable surface d'exposition, une formidable surface d'amplification, parce que qui parle de l'Action française aujourd'hui, Eugénie Bastier ?
Il y a eu plein de sujets puisque Marion Maréchal Le Pen s'est rendue au meeting de l'Action française. Il y a eu plusieurs sujets. D'ailleurs, Libération a fait une très bonne enquête sur l'Action française à Aix-en-Provence. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas la seule à en parler, mais évidemment, quand ça vient de vous, catalogué à droite, on soupçonne des allégeances que je n'ai pas. Mais voilà, moi, je ne suis pas un sous-marin de la fachosphère au Figaro, c'est ce que vous suggérez. Pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas...
Pas un sous-marin, je dis un pont entre une vie numérique et puis
il y a des choses qui surgissent.
Un média institutionnel qui...
Mais justement, je pense qu'il ne faut pas laisser... Le monopole de certains sujets à des gens parfois extrémistes. Il faut oser s'en saisir pour pas que justement on laisse le monopole à des gens qui sont extrêmement identitaires et extrêmement extrémistes. Après c'est vrai qu'il y a des sujets qui surgissent dans ce qu'on appelle entre guillemets la fachosphère et qui après deviennent des sujets. On a vu par exemple le concert de Black M
ou
Cologne.
Justement, c'est-à-dire que moi j'ai regardé par exemple les titres de vos papiers, ils incluent très très régulièrement le mot polémique. Hein, quand vous dites la venue du rapport Black M au centenaire de Verdun fait polémique. Ça avait fait polémique où ? Ça avait fait polémique sur un site qui s'appelle F de Souche.
Pas que, c'est pas vrai.
Ça avait été repris par Robert Ménard, mais qui braille 40 fois par jour. Tout le monde n'est pas obligé de suivre. C'est quand même vous qui l'avez fait surgir,
non, il y avait déjà eu au moins plein de papiers sur Metro News, 20 minutes. Alors ça, j'étais pas la première à faire le papier. Par contre, j'étais une des premières à appeler le maire et à avoir sa version des faits. Mm-hmm. Parce que je cherche toujours à avoir les deux points de vue. Et en effet, on a voulu limiter. C'est vrai que ça surgit du site F de Souche, mais ça, très vite, ça s'est répandu dans plein de sphères. Il y a des gens de gauche qui étaient contre. Il y a vraiment, ça a pris une. Ça s'est pas cantonné à ce qu'on appelle la fachosphère.
Alors, il y a quelque chose qui vous caractérise aussi, c'est-à-dire vous avez un vrai sens de la formule raccourcie, de la punchline, comme dirait Xavier Delaporte, de la citation aussi, telle une écolière qui les recopierait sur son cahier de texte. Vous en avez pour tout, dans toutes les circonstances. Vous les puisez partout. On vous écoute citer le plus radical, le plus contestataire et sûrement le plus subversif des cinéastes italiens.
Moi, ce que je dis, et je reprends les mots de Pasolini, qui n'est pas un philosophe réactionnaire, qui disait « Je suis contre l'avortement et pour sa légalisation ». C'est-à-dire que moi, je pense que l'avortement est un homicide et un drame, mais je pense qu'il vaut mieux le légaliser parce que sinon, ça se passe dans des conditions épouvantables.
Je suis, comme disait Pasolini, je suis contre l'avortement avortement et pour sa légalisation. Je suis aussi pour un monde où il y a le moins d'avortements possible, si c'est possible, mais je ne veux pas interdire aux femmes d'avorter.
Qu'est-ce que vous aimez de la pensée du cinéma de Pier Paolo Pasolini, Eugénie Bastier?
Ah, mais j'aime tout chez Pier Paolo Pasolini. Et surtout, j'aime particulièrement ses écrits corsaires, qui sont, en effet, c'est un assemblage d'articles qu'il a écrits dans les années, 70, et qui sont assez, qui vont un peu à contre-pied de ce qu'on peut, de son image qu'il avait d'homme de gauche communiste, et où il prend le contre-pied, notamment sur l'avortement. Et sur plein de sujets, c'est un peu un Michéa avant l'heure sur beaucoup de
parce
sujets.
Parce que c'est redoutablement malin pour vous d'arriver sur un studio de BFM TV et vous écrivez un livre qui assassine et qui vomit le néo-féminisme et vous citez Pasolini pour défendre vos positions sur l'avortement.
Oui, c'est peut-être malin, mais...
C'est redoutablement malin et tactique.
Je sais pas si c'est tactique, j'ai véritablement lu Pasolini et j'aime véritablement Pasolini. Comme j'aime énormément Michéa à gauche, je revendique une forme d'éclectisme dans mes références parce que je refuse d'être assigné à un camp et une case, notamment dans mes références littéraires, ce que j'aime en philosophie ou en littérature.
Alors, là-dessus, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça revient tout le temps. Par exemple, dans votre critique du féminisme d'aujourd'hui, vous dites, c'est devenu un isme, en gros, c'est-à-dire que c'est devenu une relecture de l'histoire à l'aune d'un prisme unique et déformant, une idéologie pure. Et on a l'impression dans votre bouche, Eugénie Bastier, que l'idéologie, c'est devenu quelque chose de douteux, de poisseux. En tout cas, c'est quelque chose qui discrédite la pensée et puis surtout l'action. Pourtant, vous, vous en êtes pleine d'idéologie.
Ce que je reproche dans l'idéologie telle que je définis, c'est une forme d'abstraction et de lecture un peu monolithique du monde, c'est-à-dire entre le camp du bien, le camp du mal, une lecture entre dominant-dominé, entre classes, les racistes et les racisés, enfin une espèce de lecture binaire du monde, c'est ça que j'appelle une idéologie, alors que moi je pense que la frontière du bien et du mal, elle passe à travers
les alliances idéologiques. Vous reprochez l'alliance du féminisme et de l'antiracisme, ça c'est une alliance idéologique qui pour vous vous paraît absolument désastreuse et totalement ravageuse. Vous dites aussi l'alliance entre le féminisme et le capitalisme libéralo-libertaire, on pourrait dire.
Le problème, c'est que je pense que le féminisme aujourd'hui, c'est une idéologie purement postmoderne. Et comme disait le philosophe McIntyre, la postmodernité se définit par l'absence de cohérence. Et en fait, on fait référence à des systèmes complètement différents. C'est-à-dire que, par exemple, le féminisme va être libertaire sur le mariage pour tous, mais il va être égalitariste sur les salaires, il va être puritain sur la prostitution, capitaliste quand il s'agit de mettre les femmes au travail, donc il se réfère à plein d'idéologies différentes.
Vous aussi, c'est ce que vous revendiquez depuis le début de cette interview, c'est-à-dire vous nourrissez aussi de plein d'idéologies contradictoires.
Je me revendique d'auteurs différents et de sources différentes, mais j'estime avoir une
démarche
j'ai une vision du monde cohérente, c'est-à-dire que je me bats contre l'idéologie justement libéral-libertaire, en essayant de proposer une vision du monde cohérente et réaliste, qui dans la revue que je défends, que j'ai montée, qui s'appelle Limites, c'est l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'idée qu'il faut mettre des limites, que l'homme est limité dans sa finitude et que les limites, que ce soit sur le plan culturel, économique, identitaire.
Donc vous cohérente, vous réaliste, et puis des néo-féministes incohérentes et puis très loin de la réalité, du monde en réalité.
Je veux pas être aussi sectaire et binaire qu'elles le sont, donc non, c'est pas vrai. Je dis d'ailleurs, je cite plusieurs féministes dans mon livre en disant qu'il y en a qui ont un bon discours ou un discours intéressant sur tel ou tel sujet. Donc non, tout n'est pas jeté à la poubelle et je veux pas faire preuve et montre du sectarisme de mes adversaires. Moi, je revendique. J'ai été à causeur à mes débuts, donc je revendique vraiment cette
la revue d'Elisabeth Lévy.
Voilà, cette idée de défendre le pluralisme à tout prix et toujours sur le débat et ne jamais ostraciser a priori.
Vous n'êtes pas un pur produit du tous pourri, Eugénie Bastier. Donc vous vous reconnaissez forcément dans quelque chose qui est né des mouvements républicains, politiques républicains. Est-ce qu'il y a un candidat dans lequel vous vous reconnaissez plus qu'un autre? Est-ce que vous vous reconnaissez en François Fillon?
Pas vraiment. Non, mais je me situe plutôt sur le terrain, on va dire, du débat d'idées, le terrain culturel, et je refuse de prendre position, position politique, parce que je trouve que...
Mais ils sont pas tous pourris.
Ah non, ils sont pas tous pourris, il y a des gens intéressants, hein, mais j'ai pas envie de prendre de position.
Merci Eugénie Bastier. C'est la fin de cette émission. Adieu mademoiselle, la défaite des femmes, c'est aux éditions du CERF. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia. Dans Un jour en France ce matin, faire garder son tout jeune enfant. Est-ce que c'est toujours le parcours du combattant ou est-ce que ça s'améliore? Les crèches, les assistantes maternelles, la scolarité à 2 ans, etc. etc. La ministre des Familles est notamment là pour répondre à vos questions. Laurence Rossignol.
Ah bah, vous pouvez garder 0145 aussi Eugénie Bastier qui a beaucoup réfléchi au sujet. Il est 10h passé de 20 secondes sur France Inter.